Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast que j'avais préparé depuis très longtemps. En fait, je l'avais préparé avant d'arrêter pendant plusieurs mois d'enregistrer. Et j'avais très envie de me replonger dans ce sujet que je trouve particulièrement intéressant dans cette période de fêtes très tournée vers les autres, etc. Je ne sais pas trop si je vais poster cet épisode ce lundi ou non, puisque ce sera le jour de Noël. Je me dis que ce n'est peut-être pas hyper pertinent, mais peut-être plutôt le lendemain. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on se pose ensemble la question de est-ce que c'est réellement possible d'être profondément altruiste. Alors clairement, c'est mon côté overthinker au maximum qui m'a poussée à me poser cette question. Parce qu'en fait, même quand je fais quelque chose de bien tourné vers les autres, je suis toujours en train de me demander pour qui je le fais vraiment, si en fait ça fait vraiment de moi quelqu'un de bien. Voilà, comme j'analyse tout le temps tout, trop sûrement, et que je pousse toujours un petit peu trop loin ma réflexion, ça fait un moment que je me pose cette question et que parfois j'en arrive à m'en vouloir de faire des choses qui sont bien sur le papier parce que je me rends compte qu'en fait je les fais quand même un peu pour moi. J'espère que je vais pas trop loin directement dans l'intro, je crains que si, mais je vais m'expliquer bien évidemment et j'espère que je suis pas la seule à m'être déjà posé cette question et que les recherches que j'ai faites et la réflexion que j'ai un petit peu poussée permettra peut-être d'apporter des réponses et de clarifier ça dans la tête de celles et ceux qui ont pu se poser la même question peut-être un jour, j'espère. Alors dans un premier temps, comme souvent, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de reprendre vraiment l'étymologie et le sens premier du mot altruisme. Donc étymologiquement parlant, ce mot, il a été inventé en 1830 par Auguste Comte, qui était un philosophe français. Je le dis comme si je le savais pas du tout. Ou alors en tout cas, je l'ai eu su, je pense, pendant mes études littéraires, mais je ne m'en rappelais pas. Et ce mot, il a été inventé d'après le latin alter, qui signifie autre. Jusque-là, je pense que tout le monde l'avait à peu près. Et j'ai trouvé deux définitions, donc celle du Robert et celle du Larousse. La première définit l'altruisme par la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Et ce terme est opposé à l'égoïsme. Et on retrouve cette idée d'opposer une vertu, donc l'altruisme, à un vice qui est l'égoïsme. Donc il y a vraiment une distinction très forte entre les deux termes, qui paraît évidente sur le papier, mais sur laquelle on reviendra plus tard. La définition du Larousse est la suivante. L'altruisme, c'est ce qui se soucie du bien d'autrui de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Et cette précision, je la trouve très importante. Puisqu'en fait, si on prend ces deux définitions, l'altruisme, il proviendrait de l'empathie de chacun d'entre nous. Et il y a un peu deux écoles selon les auteurs sur le sujet. Puisqu'en fait, selon mes recherches, certains auteurs allient l'altruisme à la compassion qu'on peut avoir en nous et qui, du coup, par définition, est intrinsèque à chacun de nous. Et à ce moment-là, on ne chercherait rien d'autre que l'intérêt d'autrui. Donc, c'est vraiment la première école de pensée par rapport à ce terme-là d'altruisme. Typiquement, dans ce courant de pensée, si j'ai bien compris, en tout cas, parce que c'est pas forcément simple de faire des recherches là-dessus, Rousseau, il se positionnait, par exemple, plutôt de ce côté-là de la définition, puisque selon lui, l'homme est naturellement bon et n'est perverti que par la société. Du coup, pour lui, l'homme serait capable, en cultivant du coup sa nature profonde, d'un véritable altruisme, puisque, encore une fois, selon cette école, je le précise, puisque je suis pas hyper ok avec ça. À l'état de nature, les hommes sont bons, libres et égaux. Voilà, bon, comme je viens de le dire, moi je suis pas hyper d'accord avec ça, si je peux me permettre. Je trouve que le type est un peu naïf. Mais qui suis-je pour critiquer la pensée de Jean-Jacques Rousseau? Vraiment personne. Mais je le fais quand même ici, voilà, puisque c'est mon podcast et je fais ce que je veux et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je me retrouve un petit peu plus dans l'autre école qui s'oppose clairement à cette prise de position. Et cette école-là, elle suit plus la vision de Thomas Hobbes, qui est un autre philosophe de l'époque, de la même époque, qui considère... je rigole parce que j'ai vraiment l'impression de faire un cours de philo. J'espère que ça intéresse ce que je raconte, parce que des fois je me dis, mais tu dois être super chiante en fait. J'espère que non. On verra les retours qu'on me refera là-dessus. Donc cette école-là considère l'homme comme quelqu'un de méchant dans sa nature et de plein de vices. Et justement, elle affirme que tout acte d'altruisme apporte quelque chose à la personne qui est altruiste à ce moment-là. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus d'accord avec cette pensée-là, même si cette école, quand on pousse un peu nos recherches, elle va un petit peu loin à mon goût quand même, parce qu'elle dit que finalement, quand on aide quelqu'un qui va mal, par exemple, c'est uniquement pour se débarrasser de la gêne, en fait, d'avoir des mauvaises vibes, en fait, finalement, autour de soi. Alors, autant je peux comprendre, et je pense qu'on peut tous comprendre, le sentiment désagréable d'avoir quelqu'un qui est dans l'embarras ou qui va mal autour de nous, mais de là à dire qu'on aide les autres juste pour se débarrasser de leur peine, je trouve que c'est quand même très violent, et j'estime l'être humain un peu plus que ça quand même. Bon, ça dépend quel être humain, bien sûr, mais globalement, j'estime quand même l'être humain plus que ça. Pas au point de Rousseau, au point de dire que initialement, on est tous bons et que c'est juste la société qui nous pervertit. Je pense vraiment que la nature humaine a ses mauvais côtés, vraiment à la racine, bien ancrée. Mais pour autant, je pense pas qu'on soit aussi mauvais que ça. Donc, je me situe un peu au milieu dans ma pensée, on va dire. Et pour développer un peu plus ma pensée et le pourquoi du comment j'en arrive à me poser ces questions, j'avais envie de développer quelques exemples d'altruisme que j'ai pu voir autour de moi ou qu'on peut tous voir autour de nous et analyser un peu plus ces exemples en profondeur pour voir un peu comment je peux les relier aux écoles et aux définitions que j'ai pu donner précédemment. Par exemple, quand j'ai préparé cet épisode et que je l'ai écrit, le premier exemple qui m'est venu est-ce que autour de moi, j'ai déjà été témoin d'un acte d'altruisme ? La première anecdote qui m'est venue, c'est, du coup, petite story time, il y a quelques années de ça, je partais en Corse en vacances rejoindre un ami et j'avais une valise et un sac. Et c'était le début, en gros, du moment où les compagnies aériennes low cost nous empêchaient d'avoir un sac en plus d'une valise. Je le savais un peu, j'avais un peu joué avec le feu, j'avoue. J'espérais que ça allait passer inaperçu. Évidemment, spoiler alert, ça n'est pas du tout passé inaperçu. Big up EasyJet, d'ailleurs, les pires de la Terre à ce niveau-là, qui sont vraiment pas du tout compréhensifs. Et je prenais un vol un dimanche matin à 6h du matin. Et il faut savoir que je venais de me faire voler mon téléphone quelques semaines avant. Et j'avais donc bloqué les paiements en ligne par rapport à mon compte bancaire. Et donc j'avais bloqué ma carte bleue. Bon, vous allez me dire, repartir en voyage sans carte bleue, c'était un gros risque, je sais. J'avais du liquide, mais voilà, je n'avais plus de carte bleue parce que du coup, bah, j'avais une carte bleue reliée à mon téléphone et mon téléphone avait été volé. Donc par mesure de sécurité, je n'avais plus de carte bleue. Et donc j'arrive à l'aéroport ce matin, là, à 6h du matin, un dimanche. J'arrive au comptoir d'enregistrement et la dame me dit qu'il va falloir que je paye. Et elle ne veut pas de liquide, c'est-à-dire que je suis obligée de payer par carte bleue pour ce bagage supplémentaire. Et je ne pouvais pas. Je le rappelle, je ne pouvais pas. Je rappelle qu'à ce moment-là, nous sommes un dimanche à 6h du matin, donc tout le monde dort. Aucune personne de mon entourage ne peut venir me sauver la vie. Et je pars toute seule à ce moment-là. Et évidemment, je n'ai aucun moyen de joindre ma banque pour qu'elle essaie de m'aider d'une quelconque manière, puisque nous sommes dimanche. Résultat, à ce moment-là, je me retrouve face à une dame qui est extrêmement désagréable et qui, en gros, me dit « soit vous abandonnez votre bagage, soit vous ratez votre vol ». Alors, madame, vraiment, aucune des deux options ne me va. Là, je rigole, mais à ce moment-là, je suis évidemment dépitée. Je pleure, bien sûr, hein, classique. Et il y a un couple de personnes derrière moi, de l'âge de mes parents, à peu près, je dirais, donc une cinquantaine d'années. Et ils me prennent en pitié et en gros, ils viennent me voir, ils me disent que je leur fais penser à leur fille qui part aussi souvent toute seule, etc. Et ils me payent mon bagage. Voilà, littéralement, ils me payent mon bagage. Évidemment, je prends leur numéro pour les rembourser, etc. Mais je veux dire, à ce moment-là, eux n'avaient absolument aucune certitude du fait que j'allais les rembourser ou pas. Je l'ai fait, bien sûr, mais j'aurais très bien pu ne pas le faire. Et j'avais trouvé ce geste-là absolument fou. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit juste, bah, ces gens sont d'un altruisme incroyable. Et c'est tout à fait le cas. Je veux dire, c'était un geste absolument incroyable de gentillesse pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais ils ont précisé, vous me faites penser à ma fille. Et je me suis dit, en fait, ils le font aussi parce qu'ils se disent que peut-être un jour, quelqu'un le fera pour leur fille, si elle se retrouve dans la même situation que je l'étais à ce moment-là. Et aussi, je pense, parce que l'être humain est fait d'une manière où, en ayant eu cette réflexion par rapport à la scène qui se jouait devant eux, s'ils ne m'avaient pas aidée, ils seraient sûrement repartis en culpabilisant un peu et en ayant de la peine pour moi. Et le fait d'avoir fait ce geste-là m'a sauvé la vie, littéralement. Enfin, non, pas littéralement, mais vous avez compris. Mais je pense les a emplis aussi, en fait, d'une certaine joie, finalement, et d'un certain sens moral. Vous voyez, je pense que ça les a nourris, quelque part. J'espère que vous me suivez et que vous n'êtes pas en train de vous dire que je suis ingrate, parce que vraiment pas du tout, je suis encore ultra reconnaissante de ces gens-là. C'est juste pour pousser ma réflexion. Le deuxième exemple que j'avais envie de prendre dans les actes d'altruisme auxquels on peut penser comme ça quand on parle d'altruisme en général, ça va être tous les noms des personnes qui ont œuvré pour l'humanité dans son terme le plus large et le plus grand. Et il y a beaucoup de noms qui me sont venus à ce moment-là parce que évidemment il y a eu beaucoup de personnes, enfin sûrement pas assez, mais en tout cas il y a quand même eu des noms qui ont dédié leur vie à la cause humaine et aux autres. Mais il y en a beaucoup dont on parle beaucoup, comme par exemple Sœur Emmanuelle ou l'abbé Pierre ou Coluche. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre quelqu'un qu'on connaissait un peu moins, ou alors il y a peut-être que moi qui le connaissais pas et qui suis une inculte au possible, c'est tout à fait possible. Bref, dans tous les cas, l'idée reste la même, peu importe de qui on parle, qui ait fait de grandes choses comme ça. Et j'avais envie de parler de Henri Dunant, qui est, en gros, si je schématise, le fondateur de la Croix-Rouge. Et j'ai pu faire des recherches, du coup, sur le monsieur, n'est-ce pas? Et en fait, Henri Dunant, il a été témoin de la bataille de Solferino, en Italie, et il avait improvisé des secours à ce moment-là. Et les secours qu'il avait improvisés, en fait, c'était une aide qui était apportée aux soldats des deux camps sans discrimination. Et c'est cet acte-là qui a été l'acte fondateur de la Croix-Rouge. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui était témoin d'une bataille, qui n'a pas pris parti, qui a juste eu un élan d'humanité, d'avoir envie, entre guillemets, de sauver tout le monde, en tout cas d'aider tout le monde. Et encore une fois, bien sûr, on ne peut qu'applaudir cet acte et cette belle humanité, surtout en temps de guerre. J'allais dire, on sait que c'est pas facile, je ne sais rien du tout, évidemment. Hein. Je n'ai jamais été confrontée à ça et j'espère que je ne le serai jamais. Mais j'imagine en tout cas que c'est encore plus dur d'avoir foi en l'humanité et d'œuvrer pour l'humanité dans ce genre de contexte-là. Et cet acte, bien sûr, il repose sur une empathie pour les autres, mais a fortiori, du coup, un sentiment désagréable pour Henri Dunant, c'est-à-dire qu'il a été mis face à des scènes d'horreur et voilà, une scène de guerre, en fait, tout simplement, qui, lui, l'a mis extrêmement mal par son humanité profonde, bien sûr. Et cette mise en place-là, de cette aide-là, en fait, il l'a fait pour œuvrer et pour faire disparaître, en somme, ce sentiment désagréable et d'impuissance chez lui. Ce qui reste, encore une fois, intrinsèque à sa personne. Donc, bien sûr, c'est de l'altruisme, mais en même temps, c'est égoïste. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Vraiment, je vais conclure d'une manière qui fera sens, parce que là, tout de suite, je me dis que peut-être qu'on ne me suit pas, mais vraiment, promis, à la fin, ce sera sensé, je crois. De la même manière, on peut penser à toutes les personnes qui font des dons à des œuvres caritatives, tous les mois, par exemple. Bon, ça, c'est facile, c'est juste pour les déduire des impôts, du coup. Je rigole. C'était pas une blague de ouf, mais moi, je me fais rire, c'est le plus important. Non, en réalité, quand on donne à des œuvres caritatives, bien sûr que c'est de l'altruisme, ça reste le don de l'argent qu'on gagne et qu'on choisit de mettre pour les autres, en fait, de donner aux autres. Mais encore une fois, ça revient à œuvrer pour ses propres valeurs et à défendre ce en quoi on croit personnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Dommage que vous ne puissiez pas me répondre en direct live, ce serait pratique pour savoir si je dois me taire et arrêter mon débat ou pas. Pour finir cette partie, j'avais un quatrième exemple à donner. Alors vraiment, cet exemple, je vais le prendre avec des pincettes parce que, honnêtement, c'est encore une fois une anecdote personnelle et vraiment cette story time. Si un jour j'ai assez d'auditeurs pour que juste on s'intéresse à ma vie de façon curieuse et pas forcément à un truc intéressant que j'ai à dire, vraiment cette story time, elle vaut le détour parce que ça s'est passé il y a plus d'un an maintenant et quand j'y pense, je me dis que c'était encore complètement lunaire. Mais j'ai encore du mal à en tirer des bonnes leçons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai encore ce truc de me dire que la leçon qu'il faut en tirer, c'est juste qu'il faut se méfier des gens, qu'il faut pas trop donner de sa personne, etc. Enfin bref, j'ai du mal à en tirer des leçons positives, donc je pense que je n'ai pas encore tout bien digéré, hein, soyons honnêtes. Donc j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, il y a 2 ans maintenant, j'ai fait la connaissance de quelqu'un avec qui je suis devenue très amie très vite. Et cette personne était en détresse émotionnelle à ce moment-là et avait une façon d'être en détresse qui ressemble beaucoup à la façon que j'ai moi-même d'être en détresse. Donc, elle m'a rappelé comment je peux être moi quand je suis au fond du seau, voilà, littéralement. Et j'ai tendu la main à cette personne-là. On est donc devenus très amis, très proches. Et je pense pouvoir dire que je lui ai tout donné à ce moment-là, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, ma patience, mes conseils. Je l'ai fait entrer dans ma vie. Je lui ai présenté toutes les personnes qui pouvaient faire partie de ma vie pour essayer de la sortir en fait de la sienne, qui était très compliquée à ce moment-là. Et bien sûr que je l'ai fait par empathie à l'époque parce qu'encore une fois, je ne pouvais que savoir ce qu'elle ressentait. Et moi, à l'époque où j'étais dans le même état qu'elle, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui me tende la main à ce point. Évidemment, c'était motivé par cette envie-là. Et à l'époque où je l'ai fait, je pensais sincèrement que j'attendais rien en retour de tout ça. Mais il s'avère que en retour, j'ai eu de la trahison, du mensonge, un manque de respect comme on n'en fait plus, vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, bah, je m'attendais quand même à un minimum de reconnaissance et à une main tendue le jour où moi, j'aurais potentiellement eu besoin d'aide. Et vraiment, je n'ai rien eu de tout ça. Littéralement, on m'a chié dessus. Cette personne, vraiment, je crois qu'on m'a jamais à ce point manqué de respect. Et je vais être honnête, à ce moment-là, j'ai eu la haine, mais vraiment la haine de me dire « mais je lui ai tout donné et c'est comme ça qu'elle me remercie ». Et du coup, on pourrait se dire « oui, mais en fait, t'es pas censé l'avoir fait à l'époque pour qu'elle te remercie, bien sûr ». Et je l'avais pas fait consciemment en me disant ça. Mais au moment où elle m'a trahi, c'est quand même le premier truc qui m'est venu. Parce que moi, je m'étais dévouée corps et âme pour elle et que j'avais eu en retour de la merde, quoi. Voilà, de la trahison. Et j'ai pu bien aller me faire foutre avec mon sentiment de reconnaissance, hein, voilà, qu'on se le dise. Donc, encore une fois, quelque chose qui, sur le papier, à un instant T, a été fait avec que de l'empathie et que du bon cœur, ça peut, à un moment donné, revriller dans un sentiment, en tout cas, plus égoïste et de se dire que on méritait pas ça, quoi. Et je pense que ça n'enlève rien à la beauté du geste initial, mais que pour autant, ça reste humain de penser comme ça. Ou alors, encore une fois, j'essaie de me rassurer et je suis une grosse connasse. On ne sait pas. Dites-moi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les exemples et je vais essayer de faire un peu le lien entre tout ce que j'ai dit, même si j'espère que vous m'avez suivi à peu près. Là où je voulais en venir, c'est que, en gros, pour moi, quand on fait quelque chose d'altruiste et de vraiment tourner vers l'autre, on attend au moins en retour la validation de notre personne en tant que bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire ? On attend au moins que on puisse nous-mêmes se dire « cool, j'ai fait un truc bien » et que là où les personnes en face se disent « ah, c'est une bonne personne ». On ne se le dit pas forcément consciemment qu'on attend ça, mais je pense que c'est quand même au fond de chacun d'entre nous. Et vraiment, je me pose vraiment la question, je me dis « mais qui n'attend réellement jamais rien en retour de sa bonté ?» Peut-être que certaines d'entre vous n'attendent vraiment sincèrement rien en retour de leur bonté, c'est-à-dire rien du tout, même pas de la reconnaissance, même pas du respect, rien. Et qu'ils font vraiment gratuitement, si c'est le cas, vraiment, je vous tire mon chapeau et j'aimerais entendre les expériences et les retours de ces personnes-là. Mais personnellement, sans parler d'un prêté pour un rendu de façon concrète ou matérielle, oui, je crois que j'attends toujours au moins de la reconnaissance ou au moins du respect quand j'effectue quelque chose d'altruiste dans sa définition première. Et je pense honnêtement que tout acte dévoué ou bienveillant, même d'ailleurs si on n'a aucun retour, ben, ça va nous donner la satisfaction d'être quelqu'un de bien et d'être fier de la personne qu'on est. Et vous voyez, de pouvoir se regarder dans un miroir en étant fier de qui on est, quoi. Et honnêtement, je trouve que ben, ça n'a pas de prix. Et c'est pas forcément tous les jours. Enfin, là, je dis ça comme si c'était mon cas tout le temps. Il y a des jours où je vais me coucher, je suis pas fière de moi du tout. Je fais pas toujours tout bien. Mais j'essaie, en tout cas. Et toutes les fois où je sais que j'ai fait de mon mieux et où j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, ben oui, j'en retire cette satisfaction qui, en fait, est très perso. Donc, par la porte ou par la fenêtre, l'altruisme, pour moi, il est jamais dénué vraiment de motifs personnels. Mais pour autant, je trouve pas que, du coup, ce soit à mettre en opposition avec le véritable altruisme, en fait. Je trouve ça hypocrite de plus considérer les gens altruistes pour cette raison. Parce que ça reste de la bonté d'âme, quand même. Puisque, comme on l'a dit au départ, l'altruisme, il est souvent induit, voire toujours induit, je pense, par un sentiment d'empathie. Et le sentiment d'empathie, il reste beau et tourné vers l'autre. Et même si c'est un sentiment personnel et qu'on agit pour nourrir ce sentiment, on agit aussi pour l'autre, en fait. Donc, pour moi, tout ça est assez lié et finalement pas opposé du tout. C'est-à-dire que après réflexion, après toute cette réflexion et toutes ces recherches, je considère que l'altruisme n'est pas à opposer à l'égoïsme. Donc la meuf refait la langue française. Voilà, non mais vraiment, calmez-moi. Calmez-moi de ouf. Mais je le pense quand même réellement. C'est-à-dire que je pense pas que l'altruisme, ce soit l'inverse de l'égoïsme. Je pense juste que l'altruisme, c'est un égoïsme intelligent et bienveillant. Et dans lequel, justement, on va porter autrui au même niveau d'importance que nous-mêmes. En fait, grossièrement, ce que je suis en train de dire, c'est que si on est un bon être humain, la plupart du temps, notre égoïsme nous poussera à être altruiste. Dans le sens où, par exemple, on peut aller même jusqu'à mettre sa vie en danger par altruisme, par exemple, mais ça n'en reste pas moins motivé par quelque chose de personnel. Encore une fois, on considère que les valeurs qu'on défend ou que la personne qu'on défend valent alors plus que notre propre vie. Typiquement, en temps de guerre, par exemple, aussi. Encore une fois, je parle de ce que je ne connais pas, mais de tout ce qu'on a pu voir, entendre, etc. Bon, en tout cas, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde dans ma réflexion. Et il va être temps de conclure tout ça. Et pour conclure, selon moi, en tout cas, je dirais qu'on ne peut pas être vraiment altruiste selon la définition même de l'altruisme, en tout cas pas celle qu'on trouve dans les dictionnaires actuels. Mais même si ce qui nous pousse à faire le bien, c'est en fait un peu égoïste, en partie en tout cas, on reste altruiste, en fait. Et c'est juste qu'il faut revoir la définition du mot. Voilà. Ou alors, encore une fois, peut-être que je suis juste en train d'afficher publiquement que je suis une connasse incapable de faire quoi que ce soit absolument dénuée d'intérêt. Auquel cas, ce serait vraiment la honte. Donc, j'espère que non. J'espère en tout cas que cet épisode aura pu intéresser certains d'entre vous, aiguiller des personnes qui se seraient peut-être déjà posé cette question, ou vous divertir, le cas échéant. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous vous étiez déjà posé cette question, si vous avez un avis différent du mien. Je serais trop contente de pouvoir débattre sur ce sujet-là. Et merci à ceux qui m'auront écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle semaine de vacances, de Noël, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!